Et ce matin, sur les ondes médias, nous avons décidé de comprendre l'embolie pulmonaire. On fait le point sur cette obstruction de l'une des artères pulmonaires ou de l'une de ses branches par un caillot sanguin. Dans la majorité des cas, elle serait causée donc par un caillot de sang, justement. Alors, pour faire le point avec nous, notre professeur en cardiologie, professeur Ahmed Bennis, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre une nouvelle fois présent à cette invitation sur Média.
Merci pour votre invitation. Et on va parler aujourd'hui de la grande urgence, une des grandes urgences oui. cardiologiques qu'est l'embolie pulmonaire.
C'est ce que vous craignez forcément le plus, parmi ce que vous craignez le plus, professeur Bennis ?
Exactement, enfin, les grandes urgences, les grands drames thoraciques, oui. nous avons l'infarctus, nous avons la dissection de l'aorte, les tamponnades et malheureusement nous avons l'embolie pulmonaire et on la craint essentiellement parce que le problème, c'est un gros problème de diagnostic. C'est une grande simulatrice. Oui. Et si on n'y pense pas, on n'arrive pas à la voir. Et le problème aussi, donc il y a le problème diagnostique, le retard du diagnostic, la gravité de l'embolie pulmonaire. Et parfois, ça peut survenir, c'est des gens en parfaite santé. Et donc, c'est une grande urgence. Il faudrait absolument être vigilant, savoir la reconnaître très rapidement. Parce que si on la reconnaît rapidement, on a la possibilité d'instaurer un bon traitement et de sauver les patients.
Alors justement, comment la reconnaître, professeur Bennis ?
Alors, il y a un ensemble de signes qui attirent l'attention sur l'embolie pulmonaire. Quand on a une douleur qui est thoracique, qui est intense, c'est une douleur qui peut ressembler à la vraie crise cardiaque, à l'infarctus du myocarde, donc une douleur thoracique qui peut s'aggraver à l'inspiration, et surtout lorsque cette douleur thoracique va s'accompagner d'un essoufflement soudain, d'une difficulté respiratoire, d'une respiration superficielle. On a du mal à respirer, on a une respiration consciente et on a du mal à faire entrer de l'air. Quand il y a une douleur thoracique avec un essoufflement, ça oriente et on peut avoir aussi des crachats de sang. Des hémoptysies, des crachats de sang, ça peut s'accompagner aussi de sueur excessive. On a généralement parfois une coloration bleue de la bouche, une coloration bleue des téguments, parfois même on perd connaissance. Et donc ce sont des signes de sévérité. Et en général, lorsqu'on a une douleur thoracique intense qui s'accompagne d'un essoufflement rapide dans un contexte de sueur, d'essoufflement, d'un pouls rapide, en général, et quand on mesure la saturation en oxygène, on trouve que la saturation en oxygène commence à devenir basse, à s'abaisser très rapidement. Elle passe de 98 à 99, qui est la saturation normale en oxygène, vers des taux de 90, moins de 90, dans un contexte d'accélération du rythme cardiaque, d'essoufflement, de douleur en général. On pense à l'embolie pulmonaire, surtout lorsque on a un passé récent d'une enflure de jambe, d'une phlébite, d'une thrombose veineuse. On y pense. On y pense aussi lorsqu'on a une personne qui a voyagé récemment avec un long voyage, qui était en position d'alitement prolongé. Donc, ce sont un peu dans ce contexte-là, on pense très rapidement et on met en place un ensemble d'examens qui peuvent rapidement poser le diagnostic de l'embolie pulmonaire.
Très bien. Alors, professeur Ahmed Bennis, quelles peuvent en être les causes ?
Alors, vous savez que vous l'avez très bien dit, une embolie pulmonaire, c'est lorsqu'un caillot a migré dans l'artère pulmonaire.
D'accord.
Et le point de départ est en général le point de départ au niveau des membres inférieurs, au niveau des veines des membres inférieurs. C'est un seul continuum. C'est un pôle, il y a deux pôles. C'est un seul pôle. Le pôle veineux va des veines jusqu'à l'artère pulmonaire en passant par l'oreiller droite, le ventricule droit. Et bien sûr, l'artère pulmonaire. Alors, il y a un ensemble de personnes qui sont à risque. Par exemple, des personnes qui ont une thrombose veineuse, qui ont une phlébite récente. Deuxièmement, la déshydratation peut favoriser, bien sûr, la formation de caillots. Et on peut avoir des circonstances, par exemple, des personnes qui ont des cancers, la chirurgie récente, le remplacement d'une articulation, les femmes et les hommes qui ont déjà développé une thrombose veineuse, les personnes qui ont eu déjà une hérédité de thrombose veineuse, qui ont déjà eu des circonstances de personnes, un frère, une sœur, une cousine qui ont une thrombose veineuse. Ça, c'est des circonstances favorisantes. Et en général, on a ce qu'on appelle une triade. Premièrement, il y a la stase, c'est-à-dire l'alitement prolongé. C'est-à-dire quand le sang ne circule pas assez dans les veines, ça peut favoriser une caillot. Par exemple, après une chirurgie, la personne est alitée, ne bouge pas son membre, ça peut favoriser un caillot. Un. Deuxièmement, c'est les blessures des veines. Vous mettez en place, par exemple, un cathéter, un tube pour explorer les veines, et vous pouvez blesser les veines, ça peut favoriser les caillots. Et troisièmement, un déséquilibre au niveau des veines entre les facteurs de coagulation et les facteurs qui vont lutter contre la coagulation. Et quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, par exemple, il y a une augmentation des facteurs de coagulation, des facteurs génétiques, par exemple, le déficit en certains facteurs de coagulation, par exemple, la pilule, tout ça peut donner un cocktail qui va favoriser la formation des cailloux des veines et qui peut monter dans les poumons. Et donc, le risque, ce sont les dommages au niveau pulmonaire, le risque d'avoir une oxygénation faible, d'avoir de l'hypoxie, et bien sûr, ça peut donner un tableau de cœur pulmonaire aigu, de quelque chose de très grave, et ça peut entraîner le décès si on ne fait pas attention.
Alors, si on ne fait pas attention, justement, la transition est bien faite. Si on ne fait pas attention, si ce n'est pas traité à temps, quels sont les plus grands dangers, les plus grands risques ?
Le plus grand danger, c'est de donner le gros drame thoracique, c'est donner une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Et la personne a une chute de tension, il a un cœur très rapide, son oxygène va baisser de façon importante, son ventricule droit sera sous pression, la pression dans les poumons va monter, le cœur droit va être défaillant, et quand il y a une défaillance cardiaque et une défaillance respiratoire, à ce moment-là, il y a des risques de décès de la personne, surtout dans les formes graves. Et ce qui est encore plus grave, c'est la récidive. C'est quand on ne fait pas attention, lorsqu'on n'a pas fait le diagnostic, c'est que la répétition de ces embolies pulmonaires, à court terme, peut donner une embolie pulmonaire massive qui va obstruer plus de 60% du lit vasculaire pulmonaire et qui peut donner le décès à court terme. Si les embolies pulmonaires sont à répétition, au long terme, ça peut donner de l'hypertension pulmonaire, qui est une affection tout aussi grave, parce qu'elle va handicaper fortement les malades et ça va donner un manque d'oxygène et un déficit. On ne pourra plus répondre aux besoins hémodynamiques de l'organisme, aux besoins de l'organisme. Et donc, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque droite et c'est absolument extrêmement compliqué. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que, vous savez, c'est un adage que je raconte, que je répète tout le temps.
Oui.
50% des embolies pulmonaires ne sont pas diagnostiquées. Et 50% des embolies pulmonaires diagnostiqués ne sont pas traités correctement. Donc il y a un gros problème, c'est que un problème à poser le diagnostic et un problème à traiter les patients, parce que c'est une simulatrice, elle peut prendre plusieurs facettes, parfois le diagnostic n'est pas facile, c'est pour ça il faut bien la traiter, il faut bien faire la prévention.
Alors justement, avant de parler de traitement, professeur Ahmed Bennis, comment se pose le diagnostic ?
Alors le diagnostic, une fois on y pense, c'est très important, et ça, les médecins que nous avons formés, les médecins le savent très bien, c'est que quand on est devant une personne qui a un essoufflement inexpliqué, qui commence à désaturer, à baisser son oxygène, qui a de la douleur thoracique, qui est rapide, on pense à l'embolie pulmonaire. C'est le fait d'y penser, déjà le premier pas. Donc on mesure les gaz du sang, on trouve que la personne hyperventile, elle est hypoxique, elle a de l'hypocapnie. Deuxièmement, on fait une radio thoracique qui ne montre pas grand-chose, parfois des quelques signes indirects. On fait un électrocardiogramme qui montre qu'il y a les cavités droites qui commencent à souffrir, et on fait de l'imagerie, l'échographie cardiaque pour voir s'il y a une dilatation du cœur droit, de l'hypertension pulmonaire, s'il y a un caillot dans le cœur. Et puis aujourd'hui, tout ça va aboutir à faire un angioscanner thoracique très rapidement, et cet angioscanner thoracique va montrer s'il y a une embolie pulmonaire. Et nous avons reçu un certain nombre de personnes récemment aussi dans l'épidémie du Covid. Parce que vous savez, dans les premiers épisodes du Covid en particulier, les premiers variants favorisaient beaucoup les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires, et on a vu ce nombre devenir de plus en plus important. Donc c'est pour ça que l'angioscanner thoracique permet de faire le diagnostic assez rapidement et d'orienter le traitement, voire la sévérité. Et le traitement, bien sûr, va dépendre de la sévérité.
Alors justement, ces traitements, comment ça se passe, professeur Bennis ?
Alors il y a deux volets. Il y a le volet préventif. Il y a d'abord la prévention qui est extrêmement importante. C'est qu'un membre qui ne bouge pas, c'est un membre qui est sujet à faire des caillots. Donc il faut prévenir la formation des caillots, en particulier dans les jambes. Attention à l'inactivité. Donc l'inactivité, il faut bouger, il faut marcher chaque jour. Lorsque vous devez rester assis ou étendu durant de longues périodes, il faut faire des exercices. Étirez, fléchissez, faites des cercles avec les chevilles. Appuyez les pieds contre une surface rigide. Et si vous avez un trajet lent, par exemple en avion ou en automobile, il faut vous arrêter chaque 2 heures si vous voyagez en automobile. Et si vous êtes dans un avion, il faut bouger chaque quart d'heure, chaque demi-heure. Vous levez et marchez un peu et buvez de l'eau. Et si vous êtes à risque, il ne faut pas hésiter à porter des bas à varices. Très important, ça favorise la circulation du sang et ça empêche la formation de caillots. Et bien sûr, après une chirurgie, il faut la lever précoce le plus rapidement possible. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on met en général des traitements par des anticoagulants à dose de prophylaxie. Alors, il faut conserver les jambes décroisées et les deux pieds sur le sol. Il faut éviter de porter des bas serrés. Par contre, il faut mettre des bas à varices. Il faut bien s'hydrater, en particulier quand il fait trop chaud. L'eau est le meilleur liquide pour éviter la déshydratation. Et les personnes admises à l'hôpital pour une crise cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral, ou un cancer, ou des brûlures, à ce moment-là, on met en place un traitement anticoagulant à dose préventive. Et si quelqu'un a déjà fait une thrombose veineuse, il est donc sujet à faire d'autres caillots, des récidives. Et à partir de là, on met en place, bien sûr, une prophylaxie, une prévention. Alors pour le traitement, bien sûr, tout dépend de la sévérité de la thrombose veineuse et de l'embolie pulmonaire. Alors si la personne a une thrombose veineuse qui est majeure, massive, à ce moment-là, on l'admet en unité de soins intensifs, en réanimation, et à partir de là, on met en place un traitement anticoagulant par voie parentérale, par voie injectable, et on va faire le relais par voie perosse. Deuxièmement, on va bien sûr oxygéner le patient. Si le patient a une insuffisance cardiaque respiratoire en choc cardiogénique, on va mettre en place les traitements appropriés qui vont supporter la circulation pulmonaire et la circulation cardiaque. Ça, c'est des choses importantes. Mais la base du traitement, c'est le traitement anticoagulant qui sera sous forme d'injectable et pas par la suite par voie perosse. Et puis, on va faire le relais dans les formes modérées, dans les formes qui ne sont pas sévères. Le malade ne sera pas hospitalisé. On peut le traiter de façon ambulatoire sous un certain nombre de conditions. En général, les patients seront mis pendant 3 à 6 mois selon la cause sous traitement anticoagulant, qui sera un traitement par voie orale. Ce traitement va faire appel soit à des anticoagulants anciens, les antivitamines K, qui vont nécessiter une surveillance régulière avec une surveillance du taux de prothrombine ou surveillance par un bilan biologique INR chaque 3 semaines, et le médecin va suivre les patients. Ça, c'est le traitement un peu à l'ancienne. Et nous avons des traitements nouveaux, les anticoagulants oraux directs, qui n'ont pas besoin, bien sûr, d'un contrôle chaque 20 jours et qui vont être aussi efficaces avec moins de risques de saignement. Et on a aujourd'hui 3 au Maroc. Et ce traitement va être surveillé donc de 3 à 6 mois. Bien entendu, il faut faire attention à un certain nombre de facteurs. Il ne faut pas arrêter le traitement parce qu'il y a des risques de récidive. Il faut que le traitement soit un traitement suivi sous surveillance médicale. Et bien sûr, on va donner un certain nombre de conseils et il ne faut pas oublier que le meilleur traitement, c'est la prévention, bien sûr. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter, le tabac, l'obésité, le surpoids, ça, ce sont des choses importantes. La pilule, je n'ai pas insisté assez là-dessus, la pilule plus le tabac, ce sont deux facteurs majeurs du traitement, du risque de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Attention au tabac, attention à l'obésité, attention à la pilule, aux oestrogènes qui sont contenus dans les pilules contraceptives, les hormones de remplacement après la ménopause qui peuvent augmenter le risque de développer des caillots sanguins. Et les médecins savent aussi que les cancers, ça favorise un certain nombre, donc les femmes qui ont par exemple des cancers du sein, qui sont sous tamoxifène, ça peut favoriser des caillots. Ça, les médecins le savent très bien. La grossesse aussi, ça peut constituer une période parce que le poids du bébé va exercer une pression sur les veines du bassin. Ça peut ralentir la circulation, favoriser la formation des caillots. Les gynécos le savent très bien. Il y a des périodes, le premier, dernier trimestre, les périodes après l'accouchement, juste après l'accouchement, ça peut parfois nécessiter des traitements de prophylaxie contre les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires.
Parfait. Professeur Ahmed Benyes, je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médias.
Bonne journée. Au revoir.
Et c'est un entretien réécoutable, bien évidemment, si vous venez de nous rejoindre sur notre site médias.com.